Bien, je crois que nous pouvons commencer cette conférence de la Fondation Michonis. D'abord un mot sur M. Michonis, ensuite nous parlerons de mon voisin. Louis-Georges Michonis est décédé en 1901 et il avait fait par legs en 1897 un don au collège dont le produit devait, entre autres, je cite, « rémunérer les leçons faites au collège » des savants étrangers, des philosophes et des historiens des religions. Les premiers conférenciers furent en novembre 1905 l'égyptologue genevois Édouard Naville et, pour ce qui nous concerne, le belge Frans Cumont, qui prononça à cette occasion l'essentiel de ses célèbres conférences sur les religions orientales dans le paganisme romain. Nous avons d'ailleurs fêté il y a quelques mois ici la republication de l'ouvrage issu de ces conférences. D'autres conférenciers se sont succédés au cours des années. Quelques noms démontrent le niveau de ces conférences. En 1920, il y eut Michael Rostovtsev. En 1922, Albert Einstein. En 1924, Ettore Pais, spécialiste de l'histoire de l'Italie républicaine. En 1938, je fais un choix comme ça de quelques personnalités. En 1938, Giorgio Levi della Vida, en 1942, Jean Piaget, Frans Cumont encore une fois en 1943, Théodore Adorno en 1961 et 1968. Théodore Adorno qui, c'est amusant, dans la conférence s'amuse parce qu'il était pris pour une femme, mais enfin, c'est un des aspects drôles quand on fouille dans les archives qu'on trouve. Plus près de nous, en 1984, Jean Rudart de Genève, Oleg Grabar en 2002 et Philippe Bourgeot, qui est le dernier à avoir parlé en 2007. C'est dans cette liste que s'inscrit maintenant, et j'en suis très heureux, Simon Price, qui était jusqu'à récemment fellow et tuteur en histoire ancienne à Lady Margaret Hall à Oxford et University Lecturer dans la même université, bref, ce que nous appellerions chez nous sobrement professeur d'histoire ancienne. Simon Price est devenu célèbre par un livre publié en 1984 sur rituels et pouvoirs, le culte impérial en Asie mineure. À côté d'autres livres collectifs qui a relancé, je crois, ce livre vraiment à nouveau les discussions sur le culte impérial, enfin qu'on appelle ainsi, et qui l'a sorti de d'un tiroir de l'histoire ancienne, en fait. À côté d'autres livres collectifs, Simon a édité avec Mary Beard et John North en 1998 un manuel qui est devenu célèbre aussi, Religion de Rome, et qui est maintenant un classique. Il ne s'occupait d'ailleurs pas seulement de Rome. Il a publié un excellent livre sur Religions of the Ancient Greeks, qui a l'avantage de ne pas faire une coupure historique dans l'histoire grecque à l'époque hellénistique. J'ai vainement tenté de le faire traduire, mais si quelqu'un d'entre vous veut prendre une initiative, j'en serais heureux, mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de marché. Plus récemment encore, Simon Price a publié avec Peter Toneman une très originale histoire de l'Europe classique qui va de Troie jusqu'à Augustin. Il traverse tout et qui est aussi une façon de présenter comment les anciens voyaient leur monde. Je sais aussi qu'avec John North, il travaille actuellement à des Oxford Readings in the Religious History of the Roman Empire, donc des textes consacrés à l'histoire religieuse de l'Empire romain avec John North. Et en face de ces recherches classiques, qui l'ont illustré, Simon Price anime aussi avec son épouse Lucy Nixon un programme de reconnaissance en Crète occidentale qui s'appelle Sfakia, je crois, et dont vous pouvez consulter en attendant la publication du volume qu'ils sont en train de rédiger les résultats sur Internet notamment. Et puis il y a déjà un certain nombre de publications. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que Simon Price a été inventé dans de nombreuses universités et à de nombreux colloques, je n'ai pas commencé à les énumérer, et qu'il a été pendant plusieurs années l'éditeur du Journal of Roman Studies, qui est la revue de référence en histoire romaine. Je suis donc tout à fait ravi d'accueillir Simon, un vieil ami aussi, ici au collège, dans le cadre de ces prestigieuses conférences Michonis, et pour l'entendre parler d'un sujet qui nous est à tous cher actuellement, c'est-à-dire la mobilité religieuse dans l'Empire romain. Merci.
Merci bien. Ça marche? Oui? On peut m'écouter?
Oui,
oui, très bien. Je suis ravi d'avoir été invité à vous parler à cette conférence. Le sujet dont j'ai choisi de parler convient de façon assez singulière au contexte d'aujourd'hui. Comme M. Scheder a dit, quand Franz Cumont a pris la parole en novembre à 1905 au Collège de France, il était le second conférencier qui ait jamais parlé sur la fondation Michonis. Et il a pris la parole une deuxième fois, quelques mois plus tard, à Oxford, sous l'invitation de Libert Trust. Et les conférences de Cumont sont devenues le livre « Les religions orientales dans le paganisme romain ». Les coïncidences du sujet, la période de l'année et le contexte local, sans oublier le lien avec Oxford, me rend particulièrement heureux et honoré d'être ici ce matin. Alors, voici ma question. Comment doit-on comprendre le mouvement des religions dans l'Empire romain entre Auguste et Constantin? Il y a évidemment beaucoup de cultes nouvellement attestés partout. Jupiter Optimus Maximus, Isis, Jupiter Dolicanus, Mitra, le judaïsme, le christianisme. Comment ces cultes se propagent-elles? Comment sont les conditions préalables à la mobilité religieuse? Bien entendu, les cultes ne se déplacent pas tout seuls. Le mouvement dépend des mouvements des individus et groupes. Je propose ce matin de nous pencher sur les mouvements et sur les différentes sortes de cultes qu'ils apportaient avec eux. Aborder ce sujet en analysant un culte particulier est une méthode souvent adoptée dans la recherche, mais qui n'est pas satisfaisante car elle risque de ne pas tenir compte des traits communs ou distinctifs de chaque culte. La recherche tend aussi à analyser les cultes païens en fonction de leur origine, ou plutôt de leur origine présumée, de Rome, d'Asie mineure, de Syrie, d'Égypte et de Perse. Mais cette forme de différenciation n'apporte rien qui soit vraiment utile non plus, parce qu'elle ne tient pas compte du contexte social des cultes. Par contre, j'aimerais suggérer qu'on différencie deux sortes de cultes, les cultes ethniques et les cultes électifs. Les cultes ethniques font partie de l'héritage ancestral actuel ou imaginé d'un ethnos ou race, et les cultes électifs auxquels on choisit d'adhérer. Bien sûr, certains cultes appartiennent aux deux catégories. Ils ont une base ethnique, mais ils attirent des étrangers aussi. Néanmoins, la distinction en général reste valable et je voudrais affirmer en cause de cette présentation qu'il est possible de trouver dans ces deux sortes de cultes des dynamiques très différentes. Je voudrais commencer par quelques réflexions sur les cultes ethniques. Parmi ceux-ci, les plus importants sont les cultes romains, ignorés trop souvent par ceux qui travaillent sur les changements religieux de cette période. Les grandes lignes sont aussi claires, chose que Jean-Gède et autres ont bien démontré. Les colonies de citoyens romains établies pour les personnes pauvres des zones urbaines de Rome et pour les vétérans de l'armée romaine à la fin de la République et au début de l'Empire comprenaient spécifiquement les rites romains. la création des colonies évoque les rituels fondateurs de la création de Rome elle-même, y compris prendre les augures et l'élaborage d'un stylo autour de la nouvelle ville, que nous pouvons voir ici dans ce relief de la colonie d'Aquilée. Des pontifs et augures modelés sur le sacerdoce de Rome ont été trouvés dans plusieurs colonies, peut-être dans toutes. Les Capitolia, les lieux saints aux triades capitolines de Jupiter, Juno et Minerve, étaient communes dans les colonies, bien qu'ils ne datent pas nécessairement du jour de la fondation. Mais il n'y a pas de plan, pas d'imposition de modèle spécifique à suivre. Par contre, les nouvelles colonies empruntaient des éléments de Rome, ou même de l'image de Rome qu'elle avait, la copiant quelquefois de très près, dans le désir d'établir elle-même le propre mini-Rome d'haute prestige en des lieux étrangers. Ces emprunts de Rome avaient leur racine dans le passé imaginé de Rome elle-même. Une image importante dans la mémoire des Romains vis-à-vis de leur passé était que Énée avait réussi à sauver ses dieux de foyer, les Penates, du sac de Troie, qu'il les avait ramenés avec lui en toute sécurité en Italie, qu'il avait ensuite établi leur culte à l'Avenium, pas loin d'où Rome allait être établi. Ici, nous voyons des scènes d'une des grandes séries de reliefs des histoires homériques produites à Rome au 1er siècle après Jésus-Christ. Énée porte son pied en quise, les Penates sur les genoux, ici, avec ce cercle. Premièrement, en quittant Troie, et puis en montant à bord du vaisseau qui les amènerait vers l'ouest. Cette histoire a été représentée aussi dans la décoration de Sébastien Aphrodisias en Asie mineure que nous voyons ici. Ceux qui ont par la suite créé de nouvelles communautés sur le modèle de Rome ont développé et adapté ces souvenirs, ces images des cultes gravés dans la mémoire collective et qui étaient à la base de la fondation de Rome. Au même moment où les cultes romains étaient recréés dans les provinces, les cultes ethniques de l'Est étaient importés à l'Ouest. Ici, l'image est très compliquée, mais je pense que les grandes lignes, au moins, sont claires. Du temps d'Auguste, selon un observateur contemporain, Rome elle-même était devenue la résidence d'innombrables groupes ethniques, tous, comme on dit, d'une nécessité absolue en vénérant le dieu ancestral selon le coutume local. Un exemple pertinent de ce phénomène général se trouve dans le sanctuaire des dieux palmyréniens à Trastevere, sur la rive ouest du Tibre. Dans le sanctuaire, il y avait des inscriptions votives d'émigrés de Palmyre à le dieu ancestral. Les langues des inscriptions votives soulignaient les racines de l'Est des fidèles. Le grec et le palmyrénien étaient utilisés, parfois le latin. Nous voyons ici, dans le dernier monument de cette sortie de Rome, Aglibol et Malakbel, avec une inscription votive en grec et en palmyrénien. Cette dédicace au dieu ancestraux a été faite par un homme qui se décrit lui-même dans la version grecque comme palmyrénien et qui lui-même a daté l'offrande dans le calendrier séleucide utilisé à Palmyre. Les deux dieux ont été vénérés ensemble à Palmyre et l'iconographie des dieux se donnant la main reflète l'iconographie utilisée dans le pays natal. Le cypress placé entre les deux fait allusion à le bosquet sacré à Palmyre. Les communautés de la diaspora juive appartiennent aussi au contexte des cultes ethniques migratoires. À Rome, l'adhésion aux origines de l'Est est évidente à la fois dans la langue et dans l'iconographie. Dans les catacombes juives, le grec est utilisé dans trois quarts des épitaphes et l'imagerie est basée spécifiquement sur un répertoire juif. Ici, nous voyons la partie d'une peinture où se trouve, parmi d'autres symboles, une menorah. Dans l'Empire naissant, les Juifs vivaient dans les villes portuaires de Puteoli et Ostie pour les raisons commerciales, mais à Rome, la diaspora juive était en grande partie le résultat de l'asservissement romain des Juifs de Judée à partir de Pompée. Le résultat de la suppression des révoltes majeures en Judée subséquentes a été que les dizaines de milliers de Juifs de plus ont été vendus comme esclaves, dont quelques ont été ramenés à l'Ouest. Les Palmyréniens et les Juifs font partie d'une distribution générale de piété continuelle face au culte ancestraux par ceux qui ont peuplé la moitié est de l'Empire romain, comme Nicole Belaïche l'a montré. Nombreux sont les exemples de cette piété des peuples de Grèce, d'Asie mineure, de Syrie et d'Égypte. Les raisons qui expliquent la migration sont très différentes. La migration pour les raisons économiques, l'inscription dans l'armée romaine ou l'asservissement. Mais le point principal, pas toujours suffisamment souligné, c'est que les preuves des mouvements religieux doivent être comprises dans un contexte social et politique. Comment peut-on comprendre les réseaux de distribution de ces cultes mobiles? Alors, qu'y a-t-il à la base des réseaux des sites qui subsistent? Comment peut-on les expliquer? Comme il est généralement accepté, la transmission des cultes était souvent le résultat d'individus et des groupes mobiles, marchands et soldats. Les réseaux de distribution véritables ont varié selon des raisons spécifiques de migration. Les marchands de l'Est n'ont pas toujours pris les mêmes routes que les soldats romains, mais les principes de transmission étaient les mêmes. Pour les cultes des soldats, nous avons la chance d'avoir de bonnes données sur les mouvements de groupes de soldats légionnaires d'un poste à un autre, poste qui quelquefois était éloigné par des milliers de kilomètres. Dans le cas des cohortes auxiliaires, nous savons par le nom d'où la cohorte était prélevée et donc quelle distance ce groupe de soldats avait parcouru. La situation est moins claire en ce qui concerne les mouvements des civils. Au moins dans les villes principales, il y avait des règlements concernant les droits de résidence et des méthodes pour les faire respecter. Mais il est aussi clair qu'il y avait beaucoup de mouvements de population dans l'Empire romain, où les individus se déplaçaient souvent et où les marchandises étaient simplement redevables de l'impôt local et romain. Je me souviens parfois d'une expérience scientifique que nous avons faite à l'école et pour laquelle nous devions regarder dans une chambre de nuages pour observer les mouvements imprévisibles d'électrons qui ont été émis par une masse de matière radioactive. Une expérience frappante et qui n'est pas maintenant plus possible de répéter pour les raisons de santé et sécurité. Toutefois, bien entendu, les mouvements de population ne sont pas un hasard. Ils sont seulement très, très compliqués à imaginer, en particulier quand ils sont basés sur des preuves infimes. Nous devrions donc peut-être tenir compte d'un homme, probablement un marchand syrien à Lyon, dont la pierre tombale lisait l'inscription suivante. Appontant aux Celtes et à la terre d'Occident, tout ce que Dieu a fixé de porter à la terre d'Orient féconde en tout produit. On peut ajouter à de tels articles personnels des preuves variées en ce qui concerne les routes communes utilisées pour la transmission des marchandises, comme cette carte nous le montre. Il y a longtemps, Cumont avait réalisé l'importance des routes marchandes. Mais à l'époque où il écrivait, les chercheurs acceptaient la dominance des centres orientaux de production et échange. Bien sûr, ces centres étaient importants, notait notre marchand céréal à Lyon, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter la prédominance économique orientale. Par contre, l'image moderne est celle d'un monde économique aux centres multiples, où l'Afrique du Nord et l'Espagne ont les centres de production de marchandises majeures, comme le grain, le vin, l'huile d'olive et garum. Cette nouvelle image ne correspond plus exactement à celle que Cumont envisageait entre les centres d'échange et la diffusion des cultes orientaux en Italie et à l'Ouest. Autrement dit, quelques-uns, mais seulement quelques-uns, des marchands mobiles vénéraient le culte ancestral dans leur nouvelle maison. L'absence de culte de l'Ouest n'était pas le résultat de l'absence de mobilité des habitants de l'Ouest. Il y a des exceptions, mais cette absence générale des cultes de l'Ouest en Italie et dans l'Est grec est très curieuse et mérite une explication. Il va de soi que les populations se sont avancées vers l'Est de l'Espagne ou de la Gaule. Mais pourquoi n'ont-ils pas pris avec eux le culte ancestraux? Pourquoi la recherche sur les mouvements des cultes se concentre-t-elle sur les cultes de l'Est? La réponse se trouve dans la nature des changements appliqués au système religieux de l'Est, de l'Ouest latin sous la gouvernance de Rome. On peut généraliser en disant que les cultes pré-romains locaux ont été transformés avec l'arrivée de Rome. Les changements dans la nomenclature des dieux sont le point de départ le plus évident, de Tramusiatis à Apollon ou de Mulo à Mars Mulo. De tels changements n'étaient pas simplement cosmétiques. Appeler un dieu Apollon au lieu de Tramusiatis ou Mars Mulo au lieu de Mulo signifiait la subordination des dieux locaux au plus vaste panthéon romain. Une telle subordination explique le manque de visibilité générale des dieux occidentaux ailleurs dans l'Empire. Par exemple, au milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ, deux membres des soldats prétoriens à Rome ont fait une dédicace aux saints dieux ancestraux. Tous les deux ont spécifié leur origine, comme d'autres prétoriens qui ont fait de pareilles dédicaces, d'une tribu de Gallia Belgica, dans le haut bassin de la Somme. Alors, on pourrait peut-être supposer que le dieu ait été des dieux locaux. En fait, la longue liste de leurs dieux ancestraux est la suivante. Jupiter Optimus Maximus, Sol Invictus, Apollon, Mercure, Diane, Hercule et Mars. Tout absolument remarquable à Rome à cette époque. Que ces deux soldats étaient complètement absorbés la transformation de leur système religieux local nous montre à quel point les dieux locaux de l'Ouest ne faisaient jamais presque partie du bagage que les migrants ont porté avec eux depuis leur pays maternel. Pour en revenir au culte ethnique de l'Est, les voies de transmission peuvent être déterminées dans quelques cas. Prenons par exemple les cultes d'Isis dans l'Ouest. Comme l'excellente carte de M. Bricot nous le montre, La plupart des cultes se situent sur ou près de la côte méditerranéenne. Les cultes ont été amenés ici par les marchands de la Méditerranée de l'Est. Par exemple, dans les provinces espagnoles, le culte le plus jeune, probablement à Empuriae, actuellement Empurias, ici, Cercle, a été fondé au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ par une famille d'Alexandrie qui avait des intérêts dans les activités commerciales à Empuriae. Avec la Gaule, nous ne pouvons être si spécifiques. Néanmoins, la distribution est évidente. Les cultes, dont la datation est principalement du IIe siècle après Jésus-Christ, étaient pour la plupart près de la Méditerranée. Et c'est ici seulement que nous trouvons des clergés organisés et des associations religieuses. Les cultes ont aussi été amenés à l'intérieur par les voies navigables, en particulier le Rhône, vraisemblable par les marchands de l'Est. Mais notez les grands espaces vides sur la carte. Les cultes n'ont pas été introduits plus loin, à l'intérieur de l'Ibérie, de la Gaule ou de la Grande-Bretagne. Contrairement à l'impression donnée par certaines études, les cultes originaires de l'Est n'étaient pas omniprésents. La diffusion des cultes entièrement électifs dépendait aussi du mouvement des populations. Mais elle était plus compliquée dans le sens où elle nécessitait la création de nouveaux groupes de vénération religieuse. Prenons le mithraïsme, par exemple. Comme nous le savons par cette inscription, un certain Firmidius Severinus a fait son service pendant 26 ans dans l'armée romaine, dans une vexillation de la 8e Légion Augusta détachée à Lyon et retraité à Genève. Toujours au titre de soldat et non de vétéran, donc peu après son arrivée à Genève, il a dédié un autel au dieu non conquis génie de cet endroit. Parce que la phrase « génie de cet endroit » est très rare dans ce contexte, et parce que l'hôtel a été dédié à cause d'un vœu, nous devrions supposer que Severinus, en s'installant à Genève, a réussi à créer un sanctuaire et une association mithraïque. Dans certains cas, il est possible de spéculer au sujet des routes de transmission. En Syrie, le culte de Mithra est attesté depuis la moitié du IIe siècle après Jésus-Christ, et là, je suis le travail de Richard Gordon. Il y a trois sites côtiers, notamment Césarée maritime dans le sud, et il y a des sites à l'intérieur, trois entre Bostra et Damascus, deux dans le nord-est d'Apamée, et d'Europos dans l'est. Si l'on suit le modèle de la Gaule pour le culte d'Isis, on peut peut-être penser que le culte a été amené des sites côtiers vers l'intérieur. Cela est probablement vrai pour les sites du sud de l'intérieur, de Césarée vers l'est à Bostra, ici. Mais la géographie, la grande chaîne des montagnes à l'arrière des deux sites côtiers du nord, rendent ce modèle peu probable pour les sites du nord à l'intérieur. Les cultes les ont vraisemblablement atteints grâce aux soldats qui voyageaient le long de la voie romaine principale qui allait d'Europe par les portes siciliennes jusqu'à l'Euphrate. Entre ici et voir comme cela. Assurément, à Césarée, le style danubien d'une dédicace prouve qu'il y avait un lien direct entre les cultes de Mithra, dont le Danube et la Syrie, et qu'à Dora, le culte était en règle générale redevable au culte d'Italie et plus généralement de la zone frontière du Rhin Danube. Comme l'exemple de mitraïsme en Syrie nous le montre, la population pouvait voyager partout, parfois prenant avec elle des cultes. Les individus voyageaient beaucoup pour toutes sortes de raisons. Un menuisier chrétien, Papos, né à Arados en Phénicie, le Liban actuel, travaillait et mourut à Nicomédie dans le nord-ouest d'Asie Mineure à l'âge de 41 ans. Il créa sans doute une famille chrétienne pour lui-même ou trouva au moins une communauté chrétienne où il était connu sous le nom d'Humorios, le bienheureux, et qui l'enterra comme l'avait souhaité avec une croix ici soulignée, discrète mais sans équivoque, creusée au bas de la pierre tombale. Dans le cadre de ce monde itinérant, les cultes et les objets religieux pouvaient être apportés partout. Par exemple, dans les régions montagneuses de Phrygie, dans le centre d'Asie mineure, presque aussi loin qu'on puisse être des grands centres de population, de nombreuses sources épigraphiques prouvent l'existence de communautés chrétiennes au IIe et en particulier au IIIe siècle. À Humanea, et ça c'est ici, et ses environs, une vingtaine de textes funéraires ont une formule chrétienne. Dans le territoire d'Appia, dans la haute de la vallée de Tombres, en Aube, on a connaissance d'environ plus d'une vingtaine de pierres tombales qui portent l'inscription « des chrétiennes pour des chrétiens » et qui datent du milieu du IIIe et au IVe siècle. Ou bien encore à Temeroterai, dans l'ouest de la Phrygie, ici, nous trouvons une communauté des montanistes, un mouvement chrétien prophétique, ce qui correspond très bien avec la théorie littéraire que le montanisme a ses origines en Phrygie. Donc tout est bien isolé, ou bien pas. Après tout, les chrétiens de Phrygie du IIe siècle étaient en contact avec leurs camarades chrétiens de Lyon. Et successivement, les autorités chrétiennes ont pris des mesures contre ce qu'elles considéraient bien l'hérésie montaniste. L'Empire romain dépendait de ces connexions. Tout le monde dans l'Empire aurait eu connaissance d'un changement d'empereur aussi vite que les communications l'auraient permis. Je suis certain qu'il n'y avait personne dans l'Empire romain semblable au soldat japonais qui a combattu dans les Philippines pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a refusé de croire en la défaite japonaise et s'est finalement rendu en 1964. Il n'y avait aucun endroit dans l'Empire romain qui soit vraiment isolé. Tout était connecté d'une façon ou d'une autre. Donc les cultes ont été apportés par des individus qui voyageaient d'un endroit à un autre. Les déités ethniques étaient vénérées seulement par les individus ou les groupes qui les avaient apportés ou qui venaient d'endroits proches du lieu d'origine de ces cultes. Mais la plupart des cultes électifs avaient besoin de créer de nouvelles communautés afin de fonctionner efficacement. Donc, la question essentielle se pose. Comment les nouveaux individus ont-ils été amenés à des nouveaux cultes électifs? Les spectacles ou démonstrations publiques sont peu probables avec les nouveaux cultes. En général, les mitraïstes et les chrétiens n'organisaient pas de rituels publics et les cérémonies publiques centrées sur le martyr des chrétiens n'étaient pas exactement une bonne publicité pour le culte. Je pense qu'il n'est pas très utile non plus de penser à un marché de religion, comme on dit, où les individus pouvaient comparer les différents cultes selon le besoin. L'idée d'un marché où les consommateurs individuels pouvaient choisir est anachronique pour cette période. Tous les cultes dont je parle d'aujourd'hui, qu'ils soient électifs ou ethniques, païens ou non païens, ont été fondés sur les groupes grands et petits. Ces groupes ont créé des idées et des sons religieux et ont anticipé un haut niveau d'engagement. Au lieu de spectacles ou de démonstrations, d'évangélisme des foules ou de marché de religion, on devrait plutôt penser, comme beaucoup l'ont d'ailleurs déjà fait, à la dissémination des cultes par le contact personnel, dans un contexte familial, professionnel ou social. Ce point sur le contact personnel est facile à faire et est souvent accepté, mais ce n'est qu'un point de départ. Il nous faut savoir dans quel contexte de tels contacts ont fonctionné ou sinon pourquoi ils n'ont pas réussi dans d'autres. Le culte de Mitra nous offre peut-être la meilleure vignette des contextes et des mécanismes pour tous les cultes dont je parle aujourd'hui. Cette magnifique plaque en bronze qui nous vient de Virunum, en Autriche moderne, ont énuméré les membres du sanctuaire mitraïque. Le document a été inscrit à l'origine en 183. Il comprend une liste de 34 noms dans la première colonne et demie et note le nom de ceux qui ont payé pour la restauration du temple de Mitra. La disposition nous montre que les initiateurs s'attendaient à ajouter de nouveaux noms avec le temps. En effet, au cours de la première année, plus ou moins, et probablement à cause de la peste, pas moins de 5 membres sont morts, le nom annoté par un theta pour le grec thanon, mort. 8 nouveaux membres ont été inscrits en 184, et selon la théorie très plausible de l'éditeur original de ce texte, de nouveaux noms 64 en total qui ont été ajoutés chaque année jusqu'à 201. Les ajouts sont évidemment écrits par des mains très différentes. Et vous pouvez voir les différences entre les mains et les notes de l'éditeur avec les dates modernes ici pour les nouveaux noms. Dans ce document, nous avons un aperçu unique de recrutement constant au cours d'une période de 17 ans dans une communauté mitraïque existante, peut-être créée une génération plus tôt. Comment ce recrutement a-t-il eu lieu au départ et par la suite? Virunum était la capitale de la province de Noricum et elle est restée le centre administratif des finances de la province, bien que certains éléments des finances de la province aient été déplacés récemment. Bien entendu, tous les membres, à l'exception de 2, ont été des citoyens romains. Les 2 étaient un non-citoyen libre et un esclave. Environ un quart d'entre eux étaient des affranchis, et peu avec des noms locaux, des noms celtiques. En général, les membres semblent avoir un succès modérés. Ils avaient assez d'argent pour payer collectivement pour la reconstruction du temple sans l'intervention d'un mécène. En plus, un des membres était un magistrat local et un prêtre impérial, un autre capable de payer pour la plaque en bronze et les peintures sur le plafond du temple. Mais ni l'un ni l'autre n'étaient des patres, les pères, les plus haut gradés de l'association. Certains membres étaient issus de la famille proche, père, fils ou frère. D'autres étaient des affranchis de membres existants. Dans les familles, familles proches et affranchis, et aussi d'autres contacts locaux, il y avait un recrutement continuel. En plus, on sait que les deux nouveaux membres ont été immédiatement faits patres. Ils devaient avoir amené avec eux le rang mitraïque quand ils ont été transférés d'ailleurs. Ce qui est intéressant en ce qui concerne la reconnaissance de la distribution de l'initiation mitraïque. Nous pouvons être d'accord sur le fait que la diffusion par contact personnel et mouvement individuel est simple, enfin évidente. Mais nous devrions nous arrêter un moment pour réfléchir sur le modèle à utiliser pour la diffusion par contact individuel. Voici la question. Quelles sortes de contacts personnels sont en jeu? Pour le comprendre, nous pouvons nous servir d'une distinction souvent faite chez les sociologues contemporains. S'inspirant des travaux du sociologue américain Granovetta, ils établissent une distinction entre les liens forts et les liens faibles. L'historien de l'Antiquité, Josh Ober, a utilisé ces idées dans son livre récent « Democracy and Knowledge ». Les liens forts unissent un individu à sa famille et à ses proches. Les liens faibles unissent un individu à ses connaissances. On a tendance à estimer les liens forts comme les plus essentiels dans la vie. Si Granovetta ne remet pas en question cette assertion, il montre que les liens faibles s'avèrent une puissance cruciale, comme le montre sa remarque saisissante, la puissance des liens faibles. Les liens faibles permettent à l'individu de créer un contact au-delà du réseau intime de famille et des proches au sein d'un réseau peu engageant dans lequel peu de personnes se connaissaient entre elles. Nous pourrions supposer que les personnes qui ont nombreux liens faibles sont plus aptes à intégrer des membres dans un nouveau culte. Les personnes qui travaillaient dans la finance impériale à Virunum sont de bons exemples de ce type de personnes. Bien que les liens forts, par exemple à l'intérieur d'une famille particulière, peuvent être également importants, comme c'était d'ailleurs le cas pour certains cultes de l'Antiquité, ils ne pourraient pas aussi facilement mener à la dissémination du culte. Voici l'inscription qui enregistre des nombreux membres du culte ancestral de Dionysos au sein d'une famille sénatoriale de Rome. Ce genre de lien, approuvé par le haut, ici par la grande dame Agrippinilla, était bien vu par les membres de l'élite, contrairement aux innovations venant du bas. Étant donné l'importance de contacts personnels et surtout des liens faibles, la question suivante est pourquoi les individus écoutaient des connaissances qui leur suggéraient d'adhérer à ce nouveau culte? Le contexte est ici est essentiel. La terre doit être fertile. Mais il est essentiel de ne pas présumer que la réussite d'un culte particulier ou le message de ce denier résulte uniquement de l'attente impatiente qu'on en avait. Par exemple, certains cultes construisaient l'amour comme un problème en offrant en contrepartie une solution à ce problème. En revanche, il ne faut pas présumer que le monde pré-chrétien cherchait en général une nouvelle réponse au problème de l'amour. Ce serait un débat aporétique. Il faut à présent mentionner deux arguments contextuels, car ils ont été autrefois déterminants. Tout d'abord, il était jadis courant pour les chercheurs de percevoir le monde grec qui suivait Alexandre le Grand comme un monde essentiellement déraciné, avec les populations entières arrachées à leurs liens communaux présents depuis l'ère archaïque et l'ère classique. Ensuite, les cultes civiques n'avaient plus de sens pour les individus qui se retrouvaient sans repère dans une vaste monde potentiellement sans signification. Pour l'Est grec, le second argument suivi près le premier. Pour Rome, il avait différentes origines de l'orthodoxie ancienne du néon des cultes romains de la période républicaine et de la période impériale. Selon Cumont, il n'y a peut-être jamais existé aucune religion aussi froide, aussi prosaïque que celle des Romains. Ce constat dramatique de Cumont lui permet d'expliquer les raisons de la diffusion des cultes orientaux. À présent, en revanche, le monde hellénistique n'est plus vu comme déraciné, mais plutôt enraciné dans les structures civiques en évolution. De plus, les cultes civiques, grecs comme romains, sont généralement vus comme un lieu de concentration d'énergie individuelle et communautaire et comme des repères de signification pour leurs membres. Cette nouvelle lecture d'analyse de contexte qui a supplanté l'ancienne se retrouve dans le monothéisme. Il est souvent suggéré que le polythéisme, avec ses multiples dieux aux fonctions diverses, est intrinsèquement moins attirant que le monothéisme, lequel proposait une structure globale de son. Une telle structure était particulièrement importante dans un monde aux horizons à présent si étendus. Alors que les cultes civiques, aussi riches soient-ils, n'offrent que les visions fragmentées du monde, les nouveaux cultes, qu'il s'agisse d'ici de mitra, de judaïsme ou de christianisme, proposaient chacun l'idée d'un seul Dieu et ainsi construisaient la vision d'un monde global et hiérarchisé. Si cette analyse est maintenant répandue, je crois qu'elle a ses limites, comme le montre John North. Nous ne pouvons pas dire que le monothéisme a triomphé du polythéisme car il est essentiellement plus cohérent et donc rationnel comme système. Aussi tentante que cette hypothèse puisse paraître, voir la domination moderne du judaïsme, de la christianisme et de l'islam. Le polythéisme a été et est toujours d'ailleurs aussi capable que le monothéisme de construire une vision cohérente du monde. Comme le montrent de nombreuses études depuis les structuralistes des dieux grecs, ainsi que les études d'hindouisme en l'Inde d'aujourd'hui. Nous voyons ici deux reliefs du théâtre d'Hierapolis en Asie mineure qui représentent les naissances d'Apollon et d'Artemis. Un exemple du fait que dans le polythéisme, les dieux sont liés les uns aux autres. Plutôt que de montrer l'égalité entre polythéisme et monothéisme, il est essentiel d'interroger la signification des oppositions supposées entre elles. après tout, le point clé au sujet des dieux grecs et romains est que les anciens reconnaissaient à la fois la variété et la multiplicité tout en leur attribuant une certaine unité. La conjonction de ces deux points de vue n'est pas un phénomène récent, quelque chose de nouveau à l'époque impériale, mais remonte à des temps beaucoup plus anciens. Par exemple, lorsque les Grecs et les Romains ont créé des statues anthropomorphiques pour leur culte, ils n'ont jamais cru que les dieux étaient tout semblables aux hommes, mais ils croyaient plutôt à l'idée que la forme humaine était un moyen de représenter les dieux. Autrement dit, le polythéisme était une manière de comprendre et de donner son à la puissance divine. Ainsi, la multiplicité des dieux était parfaitement compatible avec l'idée de l'unité de l'être. Il me semble donc logique de penser qu'il n'y avait aucune tendance à un monothéisme païen, comme on dit, parce qu'il n'y avait jamais de manque perceptible de monothéisme. Comme John North l'a montré, il y a toute une série de changements et de développements dans le paganisme, y compris l'idée de déclarer son engagement individuel face au groupe et le développement des nouvelles visions du monde. S'il faut analyser le contexte conceptuel et intellectuel dans lequel les cultes se sont propagés dans l'Empire romain, il faut également prendre en compte des contextes locaux. Ces derniers offrent un autre moyen de penser comment les individus recevaient les invitations de leur lien faible. Les communautés chrétiennes des petites villes phrygiennes que nous avons déjà présentées nous montrent que des communautés anavetrices peuvent exister là où nous pourrions nous attendre une pratique religieuse conservatrice qui favorise une fidélité aux divinités ancestrales. Ainsi, et je dis cela avec précaution, à mon avis, Rome était une exception totale. Et je ne pense pas que les variations de complexité urbaine nous offrent en elles-mêmes un modèle heuristique. Il est néanmoins important de considérer la variété religieuse qui existait dans les villes de l'Empire. Jusqu'à quel point cette variété s'affichait-elle et pourquoi? Dora Europos, dans l'est de la Syrie, ici, est la ville orientale dont la vie religieuse est la mieux connue. Nous allons revenir ultérieurement à cette carte, mais nous nous contentons à présent de noter surtout Dora, Palmyre et Anat. La ville de Dora du IIIe siècle est bien conservée car elle fut pillée par les Sassanides, puis essentiellement abandonnée. En vertu d'état de préservation impressionnant de la ville, on est souvent tenté de la considérer comme, on dit, potentiellement le meilleur cas d'étude de la vie sociale et religieuse d'une ville typique du Proche-Orient sous le début et apogée de l'Empire. L'état actuel des connaissances sur le sujet nous permet d'affirmer qu'il y avait beaucoup d'édifices religieux, à savoir 15, dans une ville d'environ 3000 habitants et qui s'étalait sur à peu près 60 hectares. Les sites religieux sont ici en rouge. Je voudrais maintenant vous présenter quelques images prises lors d'un voyage à Dora en mars 2009. Elles vous donnent une représentation visuelle de cette ville, bien souvent évoquée par Descartes, Anna Descartes, et par des plans schématiques de quelques bâtiments. Ici, notez le sanctuaire dit des dieux palmyréniens, la synagogue juive, l'église chrétienne. Je souhaiterais à présent demander à quel point Dura est typique, c'est-à-dire jusqu'à quel point cette ville est-elle représentative de son époque et donc nous permet de tirer un son général. Dura, qui signifie la forteresse en araméen, est installée sur un plateau surplombant l'Euphrate. Cette ville est bordée au nord et au sud par deux ouèdes. La ville est fondée comme Oropos par le roi Seleucos Nicator au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle est prise par les Arsacides vers la fin du IIe siècle et le reste, excepté lors d'une brève période, jusqu'à ce que les Romains s'emparent en 165. Si la présence militaire romaine y est faible pendant 30 ans, Dura devient en 195 une base militaire romaine majeure, d'abord contre les Arsacides, puis les Sassanides, lesquels vont piller Dura, comme je l'ai déjà évoqué, autour de 256. La ville est protégée par des fortifications aux trois côtés et une grande barrière à l'entrée de la route de Palmyre, ici. Au point culminant du site se trouve une grande forteresse, ici, avec des falaises en dessus qui tombent dans l'Euphrate. Sur l'image en bas, je vous invite à noter la terre verte et fertile, nous nourrie par l'Euphrate qui passe à côté. Les 15 sites religieux évoqués antérieurement sont très variés et peuvent être classés dans au moins 7 catégories différentes. À Dura, on vénérait des dieux grecs avec une prêtrise qui s'identifiait à la culture macédonienne issue du IIe siècle avant Jésus-Christ. Zeus, Apollon, les ancêtres Séleucides, Seleucus Nicator et Artemis. Et puis les déités palmyréniens, Bel, Archibol, Aglibol, Arsu et le Gadé, autrement dit Tuque de Dura. Et puis les divinités de la ville d'Anat, qui était à 140 km au sud de Dura, Aflad et Ezanat Kona. Des cultes araméens, Atargatis, Adonis, Zeus, Kyrios, Baal Shamin. Des cultes militaires, Mitra et Jupiter Dolichenus, une synagogue juive et une église chrétienne. Une telle variété est extraordinaire. Qui amena cette grande variété de cultes à Dura? Certains cultes se sont maintenus en vertu de la tradition macédonienne de la ville. D'autres se sont enracinés grâce aux palmyréniens. Certains sont importés par des soldats romains, légionnaires transférés du Danube et auxiliaires de Palmyre. Ces premiers constats sont plutôt simples. Mais pour connaître les autres modes d'arrivée, il faut tourner vers l'économie de la ville. Une particularité de Dura apparaîtra si l'on regarde vers l'ouest, vers l'Empire romain. Dura, comme dans l'Antiquité, est entourée d'un désert ou de steppe, si vous voulez, et ces terres ne sont utiles que pour les pasteurs nomades. Dans ce côté, Dura n'avait aucun arrière-pays agricole. Ceci explique peut-être la vieille idée selon laquelle Dura n'était qu'une simple ville de caravane. Par réaction, certains chercheurs ont suggéré que pendant l'ère romaine, Dora n'était qu'une base militaire avec une activité locale reposant sur l'armée et sa maintenance. Or, les habitants de Dora cultivaient depuis l'ère des Arsacides des vignobles, des oliviers, des grains et des légumes à côté du fleuve, dans une région officiellement appelée la Paropatamia, qui s'étend, selon mes estimations, sur 200 km de l'Euphrate. Dans tous les cas, il est certain que Dora avait une économie locale significative et indépendante de l'armée. De plus, le commerce régional, aussi bien que le commerce de longue distance, étaient tous deux importants. D'abord, il est sûr qu'il y avait du commerce terrestre. Ici, une sarcophage de négociants riches de palmiers exhibe l'animal qui rend ce commerce possible. Un homme de Atra, qu'on voit en haut, 200 km au nord-est de Dora, a fait une dédicace bilingue en atréen ou en grec dans le sanctuaire de Targetis à Dora. Cette dédicace révèle la somme d'argent qu'il offre au dieu du soleil, déité principal d'Atra. Cette dédicace se comprend plus facilement si la communauté atrienne se trouve à Dora pour la raison des échanges commerciaux. Par ailleurs, n'oublions pas que l'accès à l'Euphrate était crucial. Le fleuve représentait une artère principale du commerce qui ouvrait vers la Mésopotamie, le Golfe Persique et l'Extrême-Orient. On trouve à la synagogue une bonne illustration des liens qui existaient entre Dora et la Mésopotamie. Parmi les textes retrouvés dans la synagogue, les graffitis témoignaient des opinions des visiteurs venant de l'Est ou du Sud-Est au sujet des peintures. De plus, des textes rabbiniques de cette période suggèrent que beaucoup de Juifs se déplaçaient entre Babylone et Judée, tous deux comprenant des communautés juives de longue date. Si certains Juifs avaient pu faire le trajet pour consulter des enseignants religieux particuliers, il n'est pas possible qu'ils voyageaient en Judée pour les fêtes religieuses à cette période. Et la plupart de ces voyageurs, y compris ceux qui venaient à Dora, étaient certainement des marchands. Quant au commerce à l'ouest de Dora, la ville doit se situer dans une des deux routes entre l'Euphrate et Palmyre, à environ 300 km à l'ouest. L'existence de cette route explique certainement l'importance religieuse que les Palmyréniens portaient à Dora à partir du 1er siècle. Autrement dit, l'écologie politique et religieuse de Dora était plutôt particulière. La ville, malgré sa prospérité et sa taille, n'avait pas beaucoup des institutions civiques traditionnelles. Elle ne montrait pas des indications de dons par l'élite locale pour la ville et on n'y trouvait pas l'architecture grecque courante pour les bâtiments civiques ou religieux. Certains, et peut-être la plupart des sites religieux, étaient l'apanage de certains groupes. D'ailleurs, ces groupes étaient composés d'un mélange complexe des ordres ethniques et électifs. Il me semble que la variété trouvée dans la vie religieuse à Dora était le résultat de la vie économique. Elle attirait à Dora des individus de l'arrière-pied, de Anat, aussi bien que d'ailleurs. D'une certaine façon, on doit peut-être considérer Dora comme une ville plus comparable aux villes portuaires de la Méditerranée, comme Puteoli ou Ostia, qu'aux petites villes typiquement trouvées à l'est de Rome. Je voudrais que nous passions brièvement du contexte des villes individuelles à celle du contexte global, c'est-à-dire l'Empire romain. Le premier point essentiel qu'il faut tenir compte est que la plupart des cultes ethniques et électifs se limitaient à l'Empire romain. Il n'y avait aucun culte d'Isis, de Jupiter Dolichenus ou même de Mitra en dehors des frontières de l'Empire. Bien que certains individus, particulièrement des marchands, voyageaient partout. En dehors de l'Empire, je ne connais qu'un seul temple d'Auguste, indiqué ici sur la carte romaine du monde, sur la table de Peutinger, dans le sud de l'Inde. Inversement, on ne trouve guère de cultes étrangers à l'intérieur de l'Empire. Dora, par exemple, n'en avait pas, en dépit de la position idéale qu'il aurait eue pour un culte étranger. Il ne s'y trouvait aucun culte de la Mésopotamie ou de l'Est encore plus extrême. Je n'ai pas le temps maintenant à parler de la manière par laquelle les cultes étaient représentés vis-à-vis l'Empire. Il y a des choses intéressantes à dire au sujet de Jupiter Dolichenus et de la représentation des chrétiens comme un autre ethnos, c'est-à-dire comme une religion ethnique et donc acceptable. L'image montre seulement le problème. Plutôt, une ou deux remarques en guise de conclusion. J'ai essayé de suggérer plusieurs manières de comprendre les schémas complexes de mouvement des religions dans l'Empire romain. La distinction entre les cultes ethniques et électifs nous aide à comprendre les différentes dynamiques à l'œuvre. Dans les deux cas, la diffusion des cultes est généralement due au mouvement antérieur des gens, pour diverses raisons. En d'autres termes, le mouvement des religions n'est pas un phénomène primaire, mais bien secondaire. Il faut le comprendre dans un contexte socio-économique plus large. Mais il y a également des différences importantes entre les cultes ethniques et électifs. Le marchand de Palmyre pourrait établir à Rome un sanctuaire pour les dieux de Palmyre, mais il ne cherchait pas à enrôler dans ce culte des personnes non originaires de Palmyre. En revanche, un initié au culte de Mitra, fraîchement arrivé dans une ville dépourvue d'une cellule mitraïque locale, devait enrôler de nouveaux membres afin de créer une telle cellule. Pour cela, il devait utiliser, je saurais, la force des liens faibles. Notre hypothétique, initié au culte de Mitra, voyageait pour des raisons non religieuses, mais dont le cas de certains cultes électifs, peut-être le judaïsme, certainement le christianisme et le manichéisme, certains membres voyageaient spécifiquement pour trouver de nouveaux membres. Les chrétiens ont essayé de défendre la religion en la présentant comme ethnique plutôt qu'élective. Les manichéens ont souffert pour ne pas avoir tenté la même démarche. Mais ici, je dois mettre un terme à mon exposé sur les mouvements des religions dans l'Empire romain. Merci.